Il est midi et demi, c'est l'heure du journal de la mi-journée sur Europe 1 avec vous Fabienne Lemoyle. Bonjour Fabienne.
Bonjour Marlène, bonjour à tous.
Bon, on ne serre pas la main, on ne fait pas la bise, on évite tout contact. On essaie de garder une certaine distance pour parler, pour éviter toute contamination.
C'est donc l'Oise qui est le département le plus touché par le coronavirus. 18 cas, dont 6 sur la base militaire aérienne de Creil qui attend de nouvelles instructions. Conseil des ministres exceptionnel en cours en ce moment à l'Élysée qui a été précédé par un conseil de défense avec à l'ordre du jour l'épidémie. Nous serons sur place. Parmi les nouvelles préconisations annoncées hier soir par le ministre de la Santé pour éviter la contagion du virus, ne plus se serrer les mains. Climat pesant hier soir à la cérémonie des Césars avec l'actrice Adèle Haenel qui a quitté la salle à l'annonce du César du meilleur réalisateur pour Roman Polanski.
Vive la pédophilie ! Bravo la pédophilie ! Bravo !
Nous serons à la Faute-sur-Mer qui rend hommage aux victimes de la tempête Xynthia, c'était il y a 10 ans. À Perpignan, ce sont près de 100 000 Espagnols qui ont passé la frontière pour assister au meeting de Carles Puigdemont qui va s'exprimer dans un instant.
Aujourd'hui, on peut dire qu'on est ici. En Catalogne, en quête de cet espoir, de cette liberté aussi.
La météo avec 23 départements en vigilance orange, vent et des rafales de plus de 100 km/h attendues dans les terres en Bretagne. Et puis vous le savez, à 13h, on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Et nous reviendrons sur l'épidémie de coronavirus en Italie, pays le plus touché en Europe, avec nos deux envoyés spéciaux.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Et c'est donc la mobilisation au sommet de l'État avec deux réunions ce matin à l'Élysée sur l'épidémie de coronavirus. D'abord un conseil de défense, suivi en ce moment par un conseil des ministres extraordinaire. Jean-Rémy Baudot, vous êtes sur place pour Europe 1 et ce conseil des ministres est toujours en cours.
Et il vient d'ailleurs en fait de commencer, Fabienne. Signe que le conseil de défense a duré beaucoup plus longtemps que prévu. L'enjeu est clair, anticiper, planifier et coordonner. C'est comme ça qu'un conseiller d'Emmanuel Macron me présentait la matinée. Pour l'Élysée, la propagation du coronavirus nécessite, je cite, des mesures adaptées. On en aura le détail donc à l'issue du conseil des ministres. Toute la semaine, le ministre de la Santé, le Premier ministre, le président eux-mêmes avaient pris la parole, s'étaient déplacés dans les hôpitaux, sur les lieux des contaminations. Depuis le début de la crise d'ailleurs, 6 réunions ont déjà rassemblé Édouard Philippe et les ministres concernés. On travaille en totale transparence, jure-t-on à Matignon, mais cette parole politique n'est peut-être plus suffisante. Conseil des ministres exceptionnel, conseil de défense, tous les moyens de l'État doivent donc être tournés vers la lutte contre le virus. Avec le nombre de personnes désormais concernées, ça a pris une autre dimension, reconnaît-on dans l'entourage du président. Hier soir, Olivier Véran, le ministre de la Santé, martelait qu'une nouvelle étape de l'épidémie était franchie. Avec cette matinée et peut-être même cette journée de réunion à l'Élysée, la mobilisation politique passe, elle aussi, à un autre niveau.
Jean-Rémy Baudot, vous le disiez à l'instant, Jean-Rémy, hier soir, Olivier Véran parlait du stade 2 de l'épidémie dans lequel nous sommes entrés. Dernier bilan pour l'instant de cette épidémie en France, 57 personnes infectées, 43 toujours hospitalisées. Département le plus touché, l'Oise, où avait été hospitalisé pendant plusieurs jours l'enseignant qui est décédé cette semaine. Pour l'instant, on y recense 18 cas, 12 nouveaux cas hier. Et parmi les zones les plus surveillées par les autorités, eh bien, il y a la base militaire aérienne de Creil. Vous êtes aux abords de cette base, Théo Manval, où il y a 6 cas de coronavirus parmi le personnel.
Ouais, 3 militaires et 3 civils de l'administration, dont l'un est toujours hospitalisé à Amiens. Cette base, vous le savez, elle est au centre de nombreuses questions, hein, car elle abrite les équipes qui ont été rapatriées, les Français de Wuhan en Chine. J'ai pu parler ce matin avec l'un des soldats qui travaille à l'intérieur, sous couvert d'anonymat. Il nous raconte les mesures prises, notamment des réunions d'information pour le personnel chaque matin.
Toutes les mesures qui s'appliquent à l'extérieur de la base s'appliquent aussi à l'intérieur. On ne serre pas la main, on ne fait pas la bise, on évite tout contact. On essaie de garder une certaine distance pour parler, pour éviter toute contamination. Toute personne susceptible d'avoir des symptômes doit se présenter pour voir avec des médecins, tout ça. Ben, l'atmosphère à l'intérieur de la base, c'est pas plus d'inquiétude que ça. On attend vraiment les mesures que nos chefs pourraient nous donner.
Et selon nos informations, les responsables de cette base qui abrite plus de 2500 personnes se préparent à un confinement partiel, peut-être à partir de lundi. En clair, tout le personnel qui n'a pas de mission vitale, stratégique sur le site pourrait être invité à rester à son domicile. Ce n'est encore que du conditionnel, mais dans le centre-ville de Creil, certains habitants n'en attendent pas moins.
De confiner la base de Creil, ben moi j'estime que c'est une bonne chose, de façon que le virus se propage moins facilement. D'habitude, oui, ils sortent, et ils viennent faire leur course en ville, etc. Il faut mettre tous les atouts du côté de la santé.
Mais dans les boutiques de Creil, Fabienne, ce midi on est très loin de la psychose, beaucoup de monde pour faire ses courses dans le calme. Un commerçant me confiait même, on fait de très bonnes journées.
Théo Manval. Donc, hier soir, on l'a dit, il était d'ailleurs dans l'Oise pour l'annoncer. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a dit qu'on était passé au stade 2 de l'épidémie avec la nécessité de nouvelles mesures pour stopper la diffusion du virus. Parmi les dernières préconisations, il faut tout simplement éviter de se serrer la main. Pierre Herbulot est allé vous demander ce que vous en pensiez.
Je pense que ça peut pas faire de mal de faire attention pendant quelques temps. On se dit bonjour et puis on dit très simplement que coronavirus, on fait attention, les gens comprennent.
Hein. Ça m'est arrivé pas plus tard que ce matin, je venais de me laver les mains et de me mettre du gel hydroalcoolique et j'ai dit écoutez, je suis désolé, je vous salue mais je vous serre pas la main.
Ah, je trouve ça un peu trop excessif.
On serrera les mains. Mais oui, si les autorités sanitaires jugent qu'il faut arrêter de faire la bise aux collègues ou de serrer la main aux collègues, on arrêtera de faire la bise ou de serrer la main aux collègues.
Mais c'est complètement du bon sens, oui, pour moi, oui. La question ne se pose même pas.
Voilà pour ces réactions recueillies par Pierre Herbulot. On le voit, cette épidémie de coronavirus induit des changements dans nos comportements, réveille parfois des peurs, grippe l'économie. On verra ce qu'il faut en penser, ce que cela reflète de nos sociétés avec mon invité Frédéric Heck, qui est anthropologue, directeur de recherche au CNRS.
Vous écoutez Europe 1, il est 12h36, Fabienne Lemoyle.
On s'attendait à un climat pesant pour la 45e cérémonie des Césars. Confirmation quand a été annoncée l'attribution d'une statuette à Roman Polanski, le sacrant César du meilleur réalisateur pour J'accuse. Mathieu Charrier, vous avez suivi la cérémonie pour Europe 1.
Et oui, il est presque minuit et quart quand tombe l'annonce tant redoutée.
Le César de la meilleure réalisation est attribué à
Roman Polanski pour J'accuse.
Flottement dans la salle, Adèle Haenel et sa réalisatrice quittent leur fauteuil scandalisé, suivi par des dizaines d'invités. En coulisses, la presse est immédiatement retenue par un cordon d'agents de sécurité. Hors de question d'accéder à l'actrice. Seul un photographe de Paris Match capte les images d'Adèle Haenel en colère quittant la salle Pleyel.
Vive la pédophilie ! Bravo la pédophilie ! Bravo !
C'est le point d'orgue d'une soirée dans laquelle, bien qu'absent physiquement, Polanski était dans tous les esprits. Alors Foresti a bien tenté d'en plaisanter à de multiples reprises.
Non, alors ne faites pas comme lui, faites pas les innocents, vous savez très bien de qui je parle. Qu'est-ce qu'on fait avec Hatchoum ?
Foresti, qui n'est même pas réapparu sur scène pour sacrer Lajli et ses misérables, elle a écrit sur les réseaux sociaux « écœurée ». En coulisses, beaucoup de récompensés préfèrent éviter les questions des journalistes, mais Fanny Ardant se présente pour défendre Roman Polanski.
J'aime beaucoup, beaucoup Roman Polanski. Donc je suis très heureuse pour lui.
Mais moi, je suivrai quelqu'un jusqu'à la guillotine. Je n'aime pas la condamnation.
Symbole d'un milieu du cinéma qui n'a pas fini de se déchirer, l'Académie s'est donné 6 semaines pour réfléchir à une transformation complète de l'institution. Le chantier est abyssal.
Alors au premier rang pour assister à cette cérémonie des Césars, il y avait donc le ministre de la Culture Franck Riester qui disait il y a quelques jours que récompenser Roman Polanski serait un symbole mauvais. Il était l'invité de la matinale d'Europe 1 et justement Bernard Poiret lui a demandé comment il avait accueilli ce César du meilleur réalisateur pour Roman Polanski.
Dans le cadre de Roman Polanski, c'est très difficile, très compliqué parce qu'il y a un doute. D'abord, il fuit la justice américaine. Mmh. De nombreuses femmes ont dit qu'elles avaient été agressées par lui et donc célébrer l'homme est un message, est un signal qui est envoyé, il me semble négativement, à un moment où la chape de plomb sur ces agressions sexuelles et sexistes est en train d'exploser dans notre pays. Il y a un grand nombre de femmes qui ont subi depuis des années ces agressions sexuelles et sexistes et qui ne comprennent pas que, même si tout le monde reconnaît la qualité artistique, c'est un grand artiste, Roman Polanski, qu'il puisse y avoir une forme de célébration aussi de l'homme.
Le ministre de la Culture, Franck Riester, qui est été l'invité de Bernard Poiret ce matin sur Europe 1. À suivre, le leader catalan Carles Puigdemont demande en meeting à Perpignan, accueilli comme une vraie rockstar, nous dira notre envoyé spécial Henri de la Guérie.
Europe 1.
Il est 12h40, la suite du journal sur Europe 1, Fabienne Lemoyle.
Près de 100 000 personnes venues d'Espagne pour assister au meeting de Carles Puigdemont à Perpignan. Le leader catalan en exil ou en fuite à Bruxelles, puisqu'il est poursuivi par la justice espagnole, mais protégé par son statut d'eurodéputé, va prendre la parole d'ici quelques minutes. Henri de la Guérie, vous suivez ce meeting à Perpignan pour Europe 1. Et on peut dire que Carles Puigdemont fait ça le comble.
Oui, ce meeting ressemble au concert d'une rockstar. Des dizaines de milliers de Catalans ont franchi la frontière pour voir leur idole. Carles Puigdemont, c'est une marée de drapeaux sans heurts qui a envahi le parc des expositions sous un beau soleil d'hiver. Le séparatiste montera à la tribune dans quelques instants. Un peu plus tôt ce matin, il a été reçu avec tous les honneurs à la mairie et au conseil départemental.
Aujourd'hui, on peut dire qu'on a commencé le retour en Catalogne. Après quitter la Catalogne persécutée et vivre en exil depuis plus de 2 années et 3 mois en Belgique, aujourd'hui, on peut dire qu'on est ici en Catalogne, en quête de cet espoir, de cette liberté aussi.
Dans la foule ici, beaucoup de familles et de retraités, ce sont les indépendantistes les plus convaincus qui ont fait le déplacement. Xavier est venu de Barcelone et il a aperçu son héros ce matin dans les rues de Perpignan.
On est content de les voir, mais on est triste parce qu'on est à l'Europe, c'est le siècle 21 et encore on doit parler d'exil dans l'Europe, alors ça devrait être pas comme ça.
Et ici à Perpignan, il faut remonter à 1907 et la mobilisation des vignerons pour trouver une manifestation d'une si grande ampleur. Un gigantesque dispositif policier a été mis en place sous l'œil un brin circonspect et des Perpignanais.
Henri de Laguéry à Perpignan pour Europe 1. C'était il y a 10 ans. La tempête Cynthia faisait 47 morts sur la côte atlantique, parmi les communes les plus meurtrices, celle de la Faulte-sur-Mer. 29 morts rien que dans cette station balnéaire de Vendée, avec des habitants surpris par la brusque montée des eaux pendant leur sommeil. Cérémonie ce matin en hommage aux victimes avec une messe à laquelle vous avez assisté, Charles Guyard.
Il est 11h, les retardataires se pressent dans la chapelle Sainte-Thérèse de la Faulte-sur-Mer. Au fond de l'édifice, un petit cadre dans lequel sont inscrits les noms des 29 victimes de la tempête Xynthia. C'était il y a 10 ans et cette cérémonie marque le début d'un week-end de commémoration.
Cette messe est dédiée aux victimes défuntes et vivantes de cette catastrophe.
Célébrée par l'évêque de Luçon, la messe a réuni une centaine de personnes, parmi lesquelles René Maratier, l'ancien maire de la commune, Patrick Join, son successeur, et puis Elisabeth qui est venue avec son mari.
Nous, on est d'une commune juste un petit peu plus loin, mais on connaissait des gens qui ont subi. Ce qui était important pour nous, c'est d'être en communion avec ces gens qui ont souffert, qui ont perdu leurs biens, qui ont perdu leur famille. Ce qui s'est dit à cette célébration, c'est surtout qu'il faut rester quand même en paix malgré la douleur.
Cet après-midi, un nouvel hommage sera rendu sur le site du mémorial et demain, dimanche, d'autres commémorations seront organisées, notamment en présence d'Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique et solidaire. La Faulte-sur-Mer, Charles Guyard, Europe 1.
Le journal des sports.
Avec Axel May. Bonjour Axel.
Bonjour.
Et on commence avec du football et Marseille qui peut dire merci à son attaquant argentin Dario Benedetto.
Super Dario, comme l'ont renommé nos confrères du journal L'Équipe, a marqué un triplé hier face à Nîmes en match d'ouverture de la 27e journée de Ligue 1, ce qui a permis aux Marseillais de s'imposer 3-2, un succès qui sécurise un peu plus leur deuxième place derrière les intouchables Parisiens.
Des Parisiens qui vont jouer dès 17h30 face à Dijon.
Et Edinson Cavani qui retrouve un statut de titulaire. L'Uruguayen avait été relégué au rang de remplaçant dans la hiérarchie des attaquants axiaux au PSG. Mais ses dernières performances, notamment contre Bordeaux dimanche dernier, ont séduit son entraîneur Thomas Tuchel. Et Cavani pourrait bien être titulaire cet après-midi aux côtés de Kylian Mbappé. Neymar étant lui suspendu. Écoutez ce qu'en dit l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain.
J'ai eu l'impression que c'est maintenant le moment pour Eddy. Et c'était un moment important et il a donné, il a fait un but, il a fait un passe décisif, il a eu beaucoup d'occasions et voilà. Avec des attaquants, c'est comme ça. Avec tout le monde, c'est comme ça. Mais avec des attaquants, c'est plus comme ça. Quand ils marquent, quand ils sont décisifs, ils restent sur le terrain, c'est clair.
Thomas Tuchel au micro Europe 1 de Julien Froment.
Et PSG Dijon, c'est donc à 17h30.
Et les autres matchs seront à suivre dès 20h dans le multiplex d'Europe 1, bien sûr, avec notamment Rennes en déplacement à Toulouse et Monaco qui recevra Reims.
Allez, de bon augure en cette année olympique, une nouvelle médaille pour la véliplanchiste Charline Picon.
Oui, à moins de 5 mois des Jeux de Tokyo, la championne olympique en titre de planche à voile est devenue vice-championne du monde. Ça s'est passé ce matin en Australie.
Et puis du beau monde au départ de la 20e édition des boucles cyclistes Drôme Ardèche disputées ce week-end.
Je vous donne quelques noms, Warren Barguil, Romain Bardet, Vincenzo Nibali et Julian Alaphilippe. Et oui. Après un début de saison en Amérique du Sud, le héros du dernier Tour de France a choisi les boucles Drôme Ardèche pour faire sa rentrée en Europe, ce qui ravit, on s'en doute, l'organisateur Guillaume Delpech.
C'est toute la force du Tour de France, c'est-à-dire qu'avec le Tour de France qu'il a fait, il a vraiment changé de statut, sa renommée va maintenant au-delà du public spécifique des gens qui peuvent suivre l'actualité cycliste. Je pense que les valeurs qu'il a pu exprimer pendant le Tour de France ont séduit beaucoup de monde. Le fait de l'avoir au départ sur les 2 jours, c'est un écho, on le voit dans les retours que l'on a à la fois dans les médias et sur les réseaux sociaux, que voilà, le fait d'avoir Julian, c'est presque un événement en soi et ça fait d'une manière générale du bien au sport cycliste et à des organisateurs comme nous, forcément.
Guillaume Delpech, organisateur de cette 20e édition des boucles de Romardèche qui se déroule autour de Valence.
Et puis aux Émirats Arabes Unis, le peloton est toujours confiné à l'hôtel. Décidément, on n'échappe pas là non plus à l'épidémie de coronavirus.
Oui, le tour des Émirats a été arrêté jeudi soir avec deux jours d'avance après une suspicion de deux cas de coronavirus chez du personnel d'encadrement italien de l'une des équipes. Et ce matin, les organisateurs du Tour des Émirats Arabes Unis indiquent que les 167 premiers tests effectués se sont tous révélés négatifs. Parmi les coureurs qui, aux dernières nouvelles, sont donc toujours confinés, citons le Britannique, ancien vainqueur du Tour de France, Chris Froome, et le jeune Français, David Gaudu.
Merci beaucoup Axel Mel, épidémie de coronavirus. On y reviendra bien sûr longuement avec nos deux envoyés spéciaux en Italie, dans Tout Terrain à 13h. Il nous reste à voir le temps que nous réserve ce samedi avec une nouvelle tempête attendue sur la France. Avec moi en studio, Valérie Darmon, bonjour.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
Déjà 23 départements en alerte orange, vent.
Et oui, tous les départements allant de la Côte d'Or aux Ardennes, en passant par tout le bassin parisien, Hélène, pour vent violent, surtout à partir de maintenant. Ce matin, la Bretagne et les Pays de la Loire étaient déjà impactés, avec des rafales avoisinant les 100 km/h dans l'intérieur des terres, comme à Brest, à Landivisio, à Belle-Île-en-Terre. Et les rafales entre 80 et 100, voire plus, vont donc continuer leur progression d'ouest en est au fil de la journée. Rafales qui se feront probablement en deux temps, avec d'abord, au passage du front froid, un premier épisode bref et intense, suivi cet après-midi, dans quelques heures, d'un autre renforcement temporaire de ces rafales de vent.
Et pourquoi ce nouveau coup de vent, Valérie ?
Alors, à cause d'une dépression, cette fois très large, non pas au large des îles britanniques, mais entre le Groenland et le nord de l'Europe, conjuguée à une nouvelle tempête sur l'Irlande. Alors, résultat, deux perturbations très actives, la première aujourd'hui, la deuxième demain, avec des rafales toujours entre 110 et 120 près des littoraux, entre 90 et 100 dans les terres, au passage des perturbations évidemment, et dans la traîne qui va rester active, qui va leur succéder sous les fortes averses du grésil, des orages. Et lundi, la situation ne se calme pas non plus, on en reparlera.
Merci beaucoup Valérie Darmon. À suivre, l'épidémie de coronavirus qui grippe l'économie, qui réveille des peurs ancestrales. Qu'est-ce que cela dit de nos sociétés ? Quel défi cela nous pose ? On pose la question justement à un anthropologue, Frédéric Kerk, qui est l'auteur des Sentinelles des pandémies, livre à sortir au mois d'avril.
Il est 12h50, le journal de la mi-journée sur Europe 1 se poursuit à présent avec votre témoin de la semaine, Fabienne Lemoyle.
Et l'épidémie de coronavirus au cœur d'un conseil de défense et d'un conseil des ministres exceptionnel en ce moment même à l'Élysée avec les mesures pour éviter la contagion de ce virus en France. Cette épidémie réveille des peurs, grippe l'économie et interroge sur nos comportements. Bonjour Frédéric Kerk.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, directeur de recherche au CNRS. Ça fait des années que vous observez justement comment nos sociétés réagissent face à de telles crises sanitaires. Vous l'avez fait notamment au moment de l'épidémie de SRAS, c'était en 2003. J'ai tout simplement envie de vous demander, qu'est-ce qui vous marque dans cette nouvelle épidémie ? Est-ce que vous retrouvez les mêmes ressorts, les mêmes peurs que celles qu'on a pu voir par le passé ?
Alors, on est à une nouvelle phase de l'épidémie de coronavirus, puisque pendant deux mois, on a surtout pensé que c'était un problème en Chine et en Asie. Donc, il y avait des phénomènes de peur qui se mettaient en place à l'égard d'étrangers qui pouvaient venir de Chine, avec même des phénomènes de racisme anti-chinois qu'on n'avait pas imaginé avant qu'ils se déclenchent. Aujourd'hui, depuis une semaine, on a des cas en Italie, en France, bientôt sur le continent américain. Donc, c'est une pandémie, même si l'OMS ne le déclare pas. Donc là, la peur, elle ne concerne plus seulement les étrangers, mais vraiment n'importe qui en tant qu'il est porteur potentiellement de ce virus. Et donc, ça révèle en fait des peurs archaïques liées aux entités invisibles qui circulent entre les corps et qui en fait constituent le tissu social, mais avec lesquels il va falloir qu'on apprenne à vivre, parce que la mondialisation les rend de plus en plus imprévisibles et potentiellement dangereux.
Vous dites en fait que ce qui fait peur, c'est que ça ne se voit pas.
Ça ne se voit pas et ça a des comportements imprévisibles. Il faut quand même se rappeler que nous vivons avec des microbes, des bactéries, des virus qui sont essentiels au développement de nos fonctions biologiques. que nous partageons avec les autres des virus et des bactéries dans les moindres échanges que nous avons au quotidien, mais que parfois certains de ces virus sont dangereux. Alors il faut quand même rappeler que le coronavirus de Wuhan tue 4 personnes sur 100 infectées quand on est en Chine et une personne sur 100 quand on est hors de Chine pour l'instant. Donc c'est pas un virus vraiment dangereux, mais ce qui inquiète les autorités, c'est qu'il est imprévisible.
Est-ce que le fait que ce virus vienne du monde animal inquiète encore plus ?
Oui, parce que nous vivons de plus en plus dans les villes et nous avons beaucoup de difficultés à imaginer que des maladies nous viennent des animaux, mais les éleveurs qui vivent au contact quotidien avec les animaux ont toujours su que il y avait des maladies qui venaient. Ils étaient aussi en partie immunisés du fait du contact quotidien. Donc c'est vraiment les transformations là de l'urbanisation qui font que nous avons peur de ces virus qui viennent des chauves-souris ou des oiseaux.
Ce que l'on voit à chaque épidémie, on le voit encore aujourd'hui, c'est une économie qui tourne au ralenti. Et certains chercheurs disent que forcément une pandémie majeure est suivie d'une récession économique.
Ce qu'on avait observé au moment du SRAS, c'est plutôt un rebond rapide de l'économie. Parce qu'il y avait un tel effet de soulagement après effectivement l'arrêt de l'économie pendant plusieurs mois à Hong Kong. On peut très bien s'attendre effectivement à ce que cet effet arrive en Chine. Mais si effectivement la pandémie fait des effets économiques en Europe et aux États-Unis, c'est toute l'économie mondiale qui sera perturbée. Et on peut simplement constater, avec le recul de l'anthropologue, mais aussi l'inquiétude du citoyen, que ces épidémies de virus portées par la mondialisation montrent la nécessité d'un ralentissement de l'économie, un ralentissement forcé, mais qui conduit à réfléchir sur l'accélération des activités et des commercialisations aujourd'hui.
Qu'est-ce que ça révèle aussi de nos sociétés quand on voit les mesures de confinement, mesures prises en Chine, mesures prises en Italie avec des villes placées en quarantaine? Ça met en jeu notre civisme, ça met en jeu aussi nos libertés individuelles.
Il y a toujours eu des confinements, des quarantaines, quand il y a eu des épidémies dans l'histoire de l'humanité. Ou en tout cas quand les épidémies ont commencé à faire l'objet d'un savoir médical, donc ça c'est au moins depuis 2000 ans. Ce qui est nouveau depuis un siècle, c'est justement que les quarantaines, les mesures de contrainte deviennent intolérables, en tout cas difficilement acceptables pour des sociétés de plus en plus libérales qui mettent en avant la libre circulation des personnes. Donc là, on se trouve dans un moment de défi parce que des mesures de quarantaine qui ont été appliquées en Chine, qui ont été d'une certaine façon efficaces, eh bien, il sera très difficile de les appliquer en Europe et aux États-Unis.
Or, d'après ce que vous nous dites, ces mesures de quarantaine, ce sont des mesures qu'on prend depuis 2000 ans, ce sont les plus efficaces.
Elles sont efficaces parce que arrêter la circulation des personnes est une mesure de bon sens pour arrêter la circulation des microbes. Mais, et avant, on attribuait ça non pas aux microbes, mais à Dieu. Donc la quarantaine, on avait vu qu'empiriquement, ça marchait sans avoir l'explication. Mais effectivement, depuis une trentaine d'années, on a des nouvelles techniques épidémiologiques pour laisser la circulation des personnes se faire, tout en remontant au cas, le fameux patient zéro, de façon justement à anticiper sur la transmission de la pandémie. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui des mesures de suivi des contacts qui sont au cœur de la santé publique.
Deux dernières questions pour terminer, Frédéric Keck. Je rappelle, anthropologue, on a beaucoup parlé ces dernières années de menaces terroristes. On voit là la menace des virus et des bactéries. Est-ce que justement il faut la même surveillance ?
Alors, depuis les années 90, c'est-à-dire la fin de la guerre froide, les États-Unis ont mis en place des mesures de préparation aux pandémies qui sont analogues aux mesures de préparation à des attentats terroristes, avec l'idée que des armes biologiques pourraient être utilisées par des terroristes pour révéler des vulnérabilités dans infrastructures des sociétés européennes occidentales. Le SRAS est d'ailleurs perçu et mémorisé dans les sociétés asiatiques comme un 11 septembre asiatique. puisque c'est un virus qui se diffusait par avion, comme les attaques du 11 septembre à New York en 2001.
Alors qu'on est bien d'accord, évidemment, ce virus n'avait rien d'un complot mondial ourdi par une puissance étrangère.
Non, toutes les fake news attribuant ce virus à des mauvaises intentions ou des échappées de laboratoire sont fausses, parce que il est beaucoup plus difficile de fabriquer un virus que de laisser la nature les produire par ses propres mécanismes de sélection. Mais justement, le vocabulaire des experts, c'est de dire que la plus grande menace bioterroriste, c'est la nature elle-même, et qu'il faut donc surveiller la nature pour anticiper l'émergence de nouveaux virus.
Merci beaucoup Frédéric Heck, je rappelle, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire d'anthropologie sociale, auteur d'un livre à paraître en avril, Les Sentinelles des pandémies, aux éditions Zone Sensible. Vous le savez, à 13h, on poursuit cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Justement, on reviendra sur l'épidémie de coronavirus. Nos deux envoyés spéciaux en Italie nous expliqueront comment on travaille justement dans une zone touchée par le confinement.
Europe 1.